Il est 18h sur France Inter. Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline et les garçons, à demain pour de nouvelles aventures. Nous c'est parti pour le 18-20 de France Inter, merci de passer cette soirée avec nous et bienvenue sur la planète et sa banlieue. Pour ouvrir le bal, comme tous les soirs, c'est le journal signé Hélène Roussel. Bonsoir Hélène.
Bonsoir.
L'essentiel de ce début de semaine parle évidemment de température. Il suffit de regarder les prévisions météo pour Suez. Plus 40 degrés au plus fort de la canicule, ça se passera entre jeudi et vendredi. La ministre vient de reporter le brevet des collèges.
Et les écoles pourront fermer au cas par cas. La canicule s'installe, le gouvernement se prépare. Météo complète à la fin du journal avec Élodie Callac et le ministre de l'Intérieur au début de ce journal. Dans le reste de l'actualité, Vincent Lambert, la cour va-t-elle casser la décision de la Cour d'appel de Paris? Les traitements s'arrêtaient définitivement. À l'instant, Donald Trump qui annonce des sanctions dures contre l'Iran et vise le guide suprême lui-même. Le foot, le mondial, les États-Unis, Espagne, le coup d'envoi en ce moment. Les gagnantes affronteront les Bleus en quart de finale. Enfin, Tony Parker prend le temps à la retraite, visite dans un collège de son enfance à Rouen.
La suite, c'est à 18h15, un jour dans le monde. En Turquie, ce soir à Istanbul, surtout, le candidat du pouvoir a pris une baffe monumentale. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Qu'est-ce que ça veut dire pour Erdogan? Surtout, est-ce qu'une opposition qui fonctionne peut émerger de ce résultat en vue des présidentielles à venir qui sont quand même pas tout de suite. On y reviendra avec le premier invité. Nous sommes également au Mexique avec des chansons pour les narcotrafiquants. Et puis 19h20, le téléphone sonne, on parle d'assurance chômage ce soir, maintenant que la réforme est bien en tête pour chacun. Moins d'indemnisation mais ouverte aux démissionnaires, un bonus-malus qui reste contesté. Est-ce que tout cela répond à la question principale? Comment lutter efficacement contre le chômage? Est-ce que ces mesures seront y partir? Participer, c'est la question qu'on pose ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter.
Il fait donc trop chaud pour plancher. L'info de ce début de soirée, c'est que le brevet des collèges est reporté.
Et on imagine déjà l'organisation à la maison. Vendredi soir, les collégiens devaient être en vacances. Il faudra donc attendre un peu. Garder la tête froide puisque les salles de classe sont des fours. Sonia Princet, vous avez assisté au point presse du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Le brevet est reporté à lundi et mardi de la semaine prochaine donc.
Oui, les élèves vont recevoir de nouvelles convocations. L'ordre des épreuves ne changera pas. Français et maths lundi, histoire géo puis physique SVT mardi aux mêmes horaires. La décision concerne uniquement la France métropolitaine. En Outre-mer, les épreuves prévues jeudi et vendredi sont maintenues. Le ministre a affirmé que ça ne devrait pas bouleverser le calendrier en ce qui concerne les corrections et la publication des résultats. Mais pour ce report inédit, il va tout de même falloir revoir toute l'organisation, reconvoquer les professeurs pour surveiller les épreuves, s'assurer que tous les élèves de 3e sont prévenus. Vous le disiez, ils devaient être en vacances vendredi soir. Certains avaient prévu de partir dès ce week-end. Les chefs d'établissement pourront faire preuve de souplesse en cas d'empêchement majeur. Vous savez, il existe une session de remplacement à la mi-septembre pour les élèves qui sont malades ou hospitalisés. Les dérogations seront élargies exceptionnellement. Le ministère va communiquer les cas précis où les candidats pourront passer le brevet en septembre. En revanche, pas de modification pour les oraux du bac de français cette semaine. Les élèves n'ont pas à rester dans une salle pendant plusieurs heures, donc les conditions seront moins difficiles.
Sonia Princet en direct de la rue Grenelle avec Stéphane Beaufils, merci à tous les deux. Politique zéro risque donc, zéro risque si on veut, car quid des plus petits? Alors que la vague de chaleur doit encore durer 4 jours, que le pire est à venir, plus de 40 degrés au plus fort de la canicule jeudi et vendredi, pour l'instant il n'est pas prévu de fermer les écoles, pas au plan national tout au moins. Le ministre a évoqué du cas par cas, Jean-Michel Blanquer.
La fermeture d'écoles, de collèges ou de lycées est toujours une mesure exceptionnelle. Ce que nous voulons, c'est la continuité du service public, c'est que les enfants aillent à l'école. Mais il est vrai que l'épisode que nous allons vivre est vraiment très intense et qu'on doit donc envisager le cas, qui doit rester le plus rare possible, mais qui peut exister, de fermeture d'une école, d'un collège ou d'un lycée. Dans ce cas, cette décision aura lieu au cours des prochaines 48 heures et les parents seront informés. C'est une décision et qui relève des responsables locaux. Nous avons donc travaillé avec les recteurs sur l'organisation de cela. C'est le directeur d'école, le chef d'établissement, qui sont en situation d'apprécier la nécessité éventuelle de fermer, et dans ce cas de le faire en lien avec le rectorat, la collectivité locale, et à la fin le préfet qui prend la mesure juridiquement. Ça ne peut être qu'au cas par cas. Je n'incite pas du tout à fermer les écoles, les collèges et les lycées. J'incite au contraire à autant que possible à les maintenir ouverts, mais à les fermer lorsqu'on considère que vraiment la situation est vraiment très difficile à supporter pour tout le monde.
Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, canicule d'une précocité sans précédent, on l'a suffisamment répété. 53 départements sont ce soir en vigilance orange, seul l'Ouest est épargné et on le voit, le gouvernement donc anticipe avec en tête certainement la catastrophe de 2003 et éviter tout cela. La chaleur suffocante et la double peine dans les grandes villes, encore plus à Paris, c'est la pollution qui va avec. Un peu d'air avec ces annonces du ministre de la Transition écologique. Bonsoir Célia Quiré.
Bonsoir Hélène.
François de Rugy instaure enfin un système plus efficace et bien plus simple pour interdire les voitures les plus polluantes.
Oui, jusqu'à présent, il fallait attendre que la préfecture donne son feu vert pour ordonner cette circulation différenciée. Un pic de pollution arrive, la mairie demande des mesures pour interdire les voitures les plus polluantes et elle attend que la préfecture l'ordonne. Désormais, ce sera automatique et donc beaucoup plus rapide. Dès qu'un certain seuil d'alerte à la pollution aux particules fines sera atteint, la circulation alternée sera déclenchée. C'est ce que demandait Anne Hidalgo pour Paris, par exemple. Mais ça devrait concerner d'autres villes, selon le ministère de la Transition écologique. Le seuil d'alerte sera de 80 microgrammes par mètre cube d'air pendant 24 heures, ou bien 50 microgrammes pendant 2 jours. Ça, c'est pour les particules fines, plutôt en hiver ou au printemps. En ce moment, la chaleur et le beau temps produisent surtout une pollution à l'ozone. Le seuil d'information et de recommandation est alors de 180 microgrammes observés sur une heure. Si ce seuil est atteint 2 jours de suite, les voitures les plus polluantes seront interdites. Selon Air Paris, cette pollution commence à monter en Ile-de-France. Ce seuil pourrait donc être atteint mercredi ou jeudi. Et puis, autre changement, en cas de circulation différenciée, seuls les véhicules ayant une vignette critère de 0 à 2 seront autorisés à rouler. Ce sont les moins polluants. En revanche, les vignettes 3 ne pourront plus circuler, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
Merci Célia Quiré. Dernier mot à propos de la chaleur dans la capitale. Si vous voulez trouver des endroits originaux ou respirer un peu d'air frais, eh bien rendez-vous sur franceinter.fr, vous aurez toute la liste.
L'affaire Vincent Lambert avec cette fois une audience cruciale.
Oui, car si la Cour casse la décision de la Cour d'appel de Paris, si elle suit les préconisations du procureur général François Molins, alors les traitements pourraient être définitivement arrêtés pour Vincent Lambert. Ce tétraplégique en état végétatif depuis 11 ans, maintenu en vie le mois dernier après la décision de la Cour d'appel, la Cour de cassation doit dire justement si la Cour d'appel était compétente. Pour la première fois depuis plusieurs années, Rachel Lambert, épouse de Vincent Lambert, est venue assister à l'audience. Son avocat, maître Patrick Spinozzi.
La situation de ma cliente est une situation extrêmement difficile. Elle se retrouve depuis plusieurs années à se battre pour pouvoir finir la vie de l'homme qu'elle aime. Elle est venue aujourd'hui parce que c'était important. Et je suis absolument, totalement, entièrement confiant dans la décision que rendra la Cour de cassation. C'est un véritable coup de force juridique qu'a commis la Cour d'appel. Elle n'avait aucun droit de statuer, elle se l'est arrogée. Les juges ont ici fait montre plus de passion que de raison. Et je pense que la Cour de cassation viendra dire clairement où se situe le droit et remettre la légitimité des décisions qui ont déjà été rendu depuis 4 ans dans ce dossier.
Les parents de Vincent Lambert, eux, ne s'avouent pas vaincus et envisagent déjà un énième recours. Maître Jean Payot, leur avocat.
Aujourd'hui, on est en présence d'une norme internationale que la France a acceptée en ratifiant la Convention et que la France refuse d'appliquer. Eh bien, si la France refuse de l'appliquer, nous aurons encore accès à une juridiction au plan international. Nous ne vous avons jusqu'à présent pas déçu dans notre imagination au plan judiciaire. Eh bien, vous ne serez pas déçu et vous verrez en temps et en heure les juridictions que nous serons en mesure de saisir. Si que la Cour de cassation ne devait pas nous accorder gain de cause.
Voilà des propos recueillis par Charlotte Piret, réponse des juges vendredi à 17h. 14 personnes tombées dans la Loire, une personne portée disparue. Que s'est-il passé avec la police le soir de la fête de la musique à Nantes? Le ministre Christophe Castaner annonce aujourd'hui qu'il saisit l'IGPN, la police des polices. Pour trouver du travail, il suffit de traverser la rue. Le président n'a pas répété la phrase, mais vous avez envie de travailler, il y a des offres. Les mots d'Emmanuel Macron aux chômeurs rencontrés à Pôle emploi ce matin dans les quartiers nord de Marseille. Emmanuel Macron qui fascine visiblement de l'autre côté de l'Atlantique, le magazine Le New Yorker lui consacre 26 pages. Portrait détaillé que vous retrouvez là aussi sur notre site franceinter.fr. Appel lancé depuis Genève. La haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, réclame le rapatriement des familles de djihadistes d'Irak ou de Syrie. Quand la France, par exemple, rapatrie au compte-gouttes, chaque pays, dit-elle, est responsable de ses ressortissants. Les enfants des combattants de Daesh ont déjà trop souffert.
Les familles djihadistes étrangères doivent être rapatriées, sauf si leurs membres ont commis des crimes punis par le droit international. Les enfants en particulier ont subi de graves violations de leurs droits, y compris ceux qui ont pu être endoctrinés et recrutés par le groupe État islamique. Il faut les réadapter, les protéger, rendre des personnes apatrides n'est jamais une solution acceptable. Mais certains États ont pris des mesures pour retirer la nationalité à leurs ressortissants pour éviter qu'ils ne retournent dans leur pays. C'est exactement le risque qu'ils courent en faisant ça. Des enfants apatrides n'ont souvent plus d'éducation, plus de couverture santé, ce qui est indigne. Infliger un statut d'apatride à des enfants qui ont déjà tant souffert est un acte de cruauté irresponsable.
Michel Bachelet, haut commissaire de l'ONU avec Jérémy Lange. UNICEF estime à près de 10 000 encore le nombre d'enfants étrangers bloqués en Irak et surtout en Syrie. Asphyxier l'Iran, l'objectif de Donald Trump depuis la destruction du drone, si ce n'est pas par les armes, alors par le porte-monnaie. Trump annonce ce soir des sanctions dures visant le guide suprême lui-même. On en reparle dans le journal de 19h. Esprit d'Escobar, es-tu là? Rocco Morabito, figure de la mafia italienne, emprisonné à Montevideo en Uruguay, s'est évadé de prison la nuit dernière. Avec trois autres personnes, il a fait un trou et s'est échappé par les toits du bâtiment. Rocco Morabito, arrêté en 2017, recherché par l'Italie depuis plus de 20 ans, était en attente d'extradition pour trafic international de drogue.
Il est 18h presque 11 sur France Inter. Le client est roi, encore faut-il se battre.
Air France a été condamné à rembourser un passager après avoir annulé son billet retour. Motif, il n'avait pas utilisé l'aller. Pas de chance, la compagnie est tombée sur un client déterminé. Ça se termine donc en justice, devant le tribunal de Toulouse. Et là, c'est non seulement le remboursement du billet en question, mais 500 euros de dommages et intérêts à verser en plus. Stéphane Iglesis nous raconte l'histoire.
Ce passager de la navette Air France Toulouse-Paris n'avait pu se présenter au vol aller. Mais en revanche, bénéficiant d'un billet aller-retour, il s'était présenté normalement au comptoir d'embarquement. Sauf que la compagnie Air France lui a demandé de repayer un billet retour plein tarif. Stella Bissoy, avocate de ce passager, elle-même victime de ce genre de pratique.
C'est une pratique de la société Air France qui consiste donc à annuler le billet retour lorsqu'une personne a raté son avion ou n'a pas utilisé son billet aller. Donc il y a beaucoup de passagers qui ratent pour de diverses raisons leur vol aller et donc qui utilisent, comme ils ont un aller-retour, ils vont à l'aéroport et ils essayent d'utiliser leur billet retour pour rentrer chez eux. Et c'est là qu'on leur apprend, il y a des employés d'Air France qui disent tout votre billet est automatiquement annulé, vous ne pouvez plus monter dans l'avion, il faut racheter un billet. Quand il faut aller au procès, il y a pas mal de gens qui renoncent. Donc finalement cette pratique, je crois qu'elle reste assez lucrative pour la société Air France. En tout cas, c'est comme ça que je m'explique le fait qu'elle perdure.
En mai dernier, le même tribunal d'instance s'était déclaré incompétent dans une affaire similaire au profit du tribunal d'Aulnay-sous-Bois, tribunal de rattachement des compagnies aériennes. Le passager voit son billet remboursé, il bénéficie de 500 euros de dommages et intérêts et de 800 euros pour ses frais de justice. Toulouse, Stéphanie Glésis, France Inter.
Glissera-t-on au nord ou au sud pour les JO d'hiver 2026, Stockholm ou Milan? Le comité international olympique réuni à Lausanne aujourd'hui a tranché, ce sera Milan. Les Bleus vont-elles affronter la montagne américaine? Passé ric-rac hier soir face aux Brésiliennes, les Françaises sont en tout cas devant le match qui se joue en ce moment États-Unis-Espagne. Un partout après 13 minutes de jeu, les gagnantes, vous le savez, retrouveront la France en quart de finale de ce mondial de foot vendredi. Lui, il n'était pas devant la télé, mais bien dans le stade hier soir au Havre. Tony Parker, qui s'offre un détour par Rouen aujourd'hui avec cette visite au collège privé Jean-Baptiste de la Salle, le collège de son enfance. Il prend le temps depuis qu'il est en retraite, l'ancien basketteur star de la NBA, et on voit d'ici la tête des ados quand la cour de récré devient fan zone. C'est un reportage de Théophile Pedrola, France Bleu Haute-Normandie.
La venue de Tony Parker, c'est une surprise réservée à ses collégiens. Alors lorsqu'il arrive, l'ancien basketteur signe des autographes, prend des photos avec des enfants ravis. Mérine, 14 ans, en perd ses mots.
C'est fou, c'est un truc de fou.
Timothée, lui, fait signer son maillot de basket au nom de Tony Parker, bien sûr.
C'est celui que j'aimais pour faire du basket et du coup, je l'ai fait signer. C'est super cool de voir Tony Parker en vrai, quoi. Je regardais ses matchs et tout, mais je l'ai jamais vu dans la réalité.
La visite se poursuit par une séance de basket. Tony Parker est dans son élément, ici en Normandie.
Et c'est toujours un plaisir de revenir dans son collège, là où j'ai grandi. C'est dur à décrire en fait ce que tu ressens quand tu revois ta classe de 6e, 5e, c'est les bonnes années.
Et les élèves suivent les bons conseils de leur nouveau professeur.
Ces trois doigts-là, c'est les plus importants. C'est pour diriger. La main gauche, c'est juste une main de soutien en fait. Vous pouvez pas shooter comme ça, vous shootez tous comme ça en fait.
Une leçon sous les yeux émus de Christophe Mézeret, surveillant du collège qui a connu le jeune Tony.
Il jouait tout le temps. On pouvait pas le rater, on traversait la cour, Tony était là. Il répétait ses gammes toute la journée, les paniers à trois points, passer sous le panier, etc. On sentait déjà qu'il avait une passion incroyable.
Christophe se lève, va voir le désormais grand Tony qui le reconnaît tout de suite. Tipeee le promet, il reviendra à nouveau dans son collège.
Le bon vieux retour aux racines, voilà, rien de tel.
Allez, merci beaucoup Hélène, et à tout de suite dans Un jour dans le monde.
Et oui, on ira en Thaïlande, un an tout pile après le sauvetage ultra médiatisé. Vous vous en souvenez sans doute de ces 12 ados coincés dans une grotte pendant plus de 2 semaines. Et puis au Brésil, au lendemain de l'élimination, message très émouvant, très rageur aussi de la joueuse de foot, Marta. Elle s'adresse à la relève, vous l'entendrez.
Allez, sacré Marta, tout à l'heure, autour de 18h37. Ce soir, nous sommes en Turquie, à Istanbul, qui vient d'infliger un camouflet au candidat estampillé Erdogan. Nous sommes au Mexique avec les trafiquants de drogue et les chansons, surtout, qui leur sont consacrées. Et puis en deuxième heure, c'est le téléphone sonne. On parle assurance chômage ce soir. La réforme dévoilée la semaine dernière n'en finit pas de faire réagir. Vous nous direz ce qui vous fait réagir. Est-ce que les mesures, les montants, la dégressivité, les mois travaillés, est-ce que tout cela aidera à résoudre la vraie question qu'on a envie de poser? Est-ce que cette réforme sera efficace pour lutter contre le chômage? Vous en parlerez avec ATD Carmonde, qui a créé les dispositifs Territoire Zéro Chômeur, et avec la CPME aussi, qui représente les petites et les moyennes entreprises. À tout de suite.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Et sinon, Élodie Calac, donc il fait chaud, 53 départements en vigilance orange canicule.
Et oui, entre le bassin parisien, le nord-est, le Limousin, le nord de Midi-Pyrénées et les Alpes, le thermomètre va avoir du mal à baisser déjà cette nuit, souvent 17 à 19 degrés, davantage dans les grandes villes, 20 degrés à Lille, à Bourges, 22 à Paris, 24 à Nice. Demain après-midi, souvent 35 à 38 degrés entre le centre et l'est, 30 à 34 degrés ailleurs, moins de 30 degrés tout de même sur les régions voisines de la Manche et la Loire-Atlantique. Le pic de chaleur, il est attendu entre jeudi et vendredi avec 38 à 42 degrés sur une grosse moitié du pays.
Et attention aux orages du coup sur le nord-ouest, et c'est dès ce soir.
Oui, ce soir, cette nuit, on surveille les orages en effet, surtout sur la Normandie avec de la grêle possible et du vent. Demain, il restera juste des nuages sur la Bretagne, le Cotentin avec un petit risque d'ondées orageuses et puis ailleurs, beaucoup de soleil.
Élodie Calac de Météo France. Merci beaucoup Élodie, à tout à l'heure après 19h.